podcasts du lycée Romain Roland d'Ivry sur Seine, des podcasts qui traitent de sujets divers et variés autour de la fragilisation du lien social. Aujourd'hui, vous serez avec Samuel Huan, Maxime Charbonnet et Henri Chive, tous élèves de la classe de première générale 3. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va se pencher sur les interactions et les conséquences des médias et des fausses informations qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Parmi celles-ci, on retrouve deux principaux cas de figure, les rumeurs, qui sont des informations confuses et incertaines, et les fake news, qui sont des informations intentionnellement fausses et propagées dans un but concret. On retrouve de nos jours sur Internet un nombre important d'informations qui s'échangent entre les utilisateurs et ceux à une vitesse folle. Avec l'émergence des réseaux sociaux ces dernières années, leur popularité ne fait que s'accroître. Ces utilisateurs sont de plus en plus jeunes et le temps passé par jour est de plus en plus long. Ajoutez à cela les impacts sur les individus qui ne cessent d'augmenter, stress, hyperdépendance, harcèlement et addiction. Les réseaux sociaux n'échappent pas aux inconvénients et dangers qu'elles peuvent générer.
Les réseaux sociaux qui servaient à l'époque à se renseigner, communiquer, partager et interagir avec d'autres individus l'est encore aujourd'hui. Mais ces informations sont de plus en plus à douter. On remarque surtout que de nos jours, ces réseaux permettent à n'importe qui de dire et de diffuser ce qu'il veut. Les trafics de fausses informations dans les réseaux sociaux est de nos jours très présent. Et c'est pour cela qu'il est préférable de vérifier toutes les informations qu'on peut trouver. Claire Wardle est une chercheuse qui lutte contre les désinformations sur Internet, nous a identifié 8 intuitions potentielles qui pourraient avoir les auteurs qui propagent ces fausses informations. On peut noter la provocation, le profit et d'autres. Et on retrouve aussi la parodie qu'on retrouve également dans les articles satiriques, mais on pourrait se poser la question suivante. Est-ce que la satire est-elle aussi néfaste que la propagande ou la provocation? Et pour répondre à cette question, nous avons interrogé Sébastien Liebus, cofondateur du journal satirique Logographi.
La satire, c'est un style qui existe depuis des centaines d'années. C'est un style littéraire qui a toujours existé, qui a une volonté politique et qui est l'opposé de ce que veut faire la fake news ou la fausse information. C'est-à-dire que la fausse information, elle est là pour tromper. Il y a une volonté malhonnête de triche, de manipulation. Il y a un dessein politique aussi derrière, qui est là pour déstabiliser les opinions, déstabiliser une élection, par exemple, fausser une élection, essayer de polariser le débat. Il s'agit de vraiment tromper et amener les gens vers une autre direction. Mark Twain disait à une époque, la vérité a à peine le temps de mettre ses chaussures, que le mensonge a fait deux fois le tour du monde. Le mensonge circule très très vite. La satire, elle a un dessein politique, mais qui n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'elle est là pour, comme une espèce de miroir de la réalité, mais qui va dire que, en fait, en gros, elle va remettre en cause les positions de dominance. Elle va attaquer les dominants. Elle va mettre à jour, justement, la manière dont les dominants exercent leur pouvoir sur certaines personnes, sur les minorités. En fait, elle va s'attaquer aux personnes qui détiennent le pouvoir pour justement remettre en question ce système de domination. Et l'avantage de la satire, c'est que vous pouvez faire passer plein de messages, ce qui fait que les articles, on dit souvent, c'est drôle parce que c'est vrai, c'est triste parce que c'est vrai. C'est-à-dire qu'un article de satire n'a pas vocation obligatoirement d'être drôle. Il est là pour faire réagir. Et cette réaction, elle peut être à la fois du rire, mais elle peut aussi être à la fois de la colère, de la tristesse. C'est ça, en fait, la satire, elle permet de jouer sur tous les niveaux, et pas juste d'amener une fausse information.
Cependant, avec la montée en nombre des informations, les seules informations vérifiées sont celles des journalistes. On remarque une tendance des journaux papier qui se diffuse vers le numérique et cela permet aux internautes de se renseigner plus facilement tout en ayant des informations fiables. Mais on pourrait se poser la question suivante. Où est-ce que les journalistes trouvent-ils leurs informations? Ces informations sont-elles à croire? C'est pour cela que nous avons interrogé Anaëlle Durand, chef adjointe de la rubrique Les Décodeurs du journal Le Monde, qui nous explique comment leurs articles sont rédigés et vérifiés.
Moi, je travaille donc au service des Décodeurs du Monde, un service un peu généraliste. On fait, entre autres, de la vérification d'informations, de rumeurs, notamment de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, ou d'informations qui peuvent être, par exemple, des déclarations d'hommes politiques. On vérifie si ça correspond à une réalité ou si c'est contredit par les faits. Et on fait toutes sortes d'articles plus classiques, de type explication pédagogique, et aussi des articles de visualisation, par exemple des choses sur le suivi d'épidémie de Covid ou ce genre de choses. Donc les sources d'information qu'on a sont les mêmes que la plupart des journalistes. On a des sources qui peuvent être les sources officielles. On a aussi accès à des informations de type communiqué de presse. Chacun des journalistes du Monde qui est un peu spécialisé dans une rubrique peut avoir aussi des sources spécifiques. Par exemple, celui qui s'occupe de l'économie sera informé de tout ce qui se passe au ministère de l'économie. Et il y aura des informations sur les rapports qui sortent sur les tendances économiques. Il lui répond dans sa boîte mail. On a aussi accès à plusieurs agences de presse, notamment l'AFP, mais aussi Reuters, AP, qui sont un peu une espèce de centrale d'achat d'informations, c'est-à-dire qu'eux, ils ont toutes les informations de toutes les rubriques, ils suivent aussi bien le sport que la politique, que s'il se passe un coup d'État dans un pays, etc. Ils donnent déjà des articles un peu pré-rédigés ou des indications sur l'agenda de ce qui va se passer dans les prochains jours. Nous, c'est quelque chose qu'on regarde quand même attentivement pour savoir ce qui est dans l'actu. On regarde un peu aussi ce que font.
Croiser les sources, vérifier les informations, confronter les informations. Si leurs méthodes permettent d'avoir le moins de désinformations possible, alors nous aussi, nous pouvons les utiliser à notre échelle. On peut notamment citer le compte Twitter @fake-investiga qui débunk certains faits d'actualité fausses. Seulement, vérifier les informations n'est pas la seule solution. Il est aussi possible de lutter contre celles-ci. Le droit français interdit la publication de certaines fausses nouvelles. On peut notamment citer par exemple l'article 322-14 du code pénal qui punit la diffusion de fausses informations dans le but de faire croire à un attentat.
De nos jours, Internet et les réseaux sociaux permettent à ses utilisateurs de transmettre tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils pensent, chacun pour son but. Cette liberté d'expression entraînera néanmoins la corruption de celle-ci dans un futur proche. Seulement, seule une poignée de méthodes permettent de vérifier leur véracité, confrontation des informations et croisement de données.
On pourrait alors se demander que va-t-il se passer si les réseaux sociaux censurent ses utilisateurs ?